À bout de souffle. Vouloir dire et ne pas pouvoir trouver les mots pour dire. Vouloir rendre compte sans être trop sûr de quoi exactement. Coupure, blessure, meurtrissure, amour, douleur profonde, joie intense, folie, insouciance, innocence. Explorer les différentes métamorphoses du corps, le pousser dans ses derniers retranchements, des torsions et des contorsions, des gestes suspendus et retenus. Le temps de donner à voir des petits bouts d'histoire, des traces de vie. Kathleen Noël, à propos du spectacle Errance. Errance est une pièce chorégraphique qui a été présentée à Tours lors de l'édition 2006 du festival Transchorégraphique. Errance est un solo qui explore les métamorphoses du corps en le poussant dans ses derniers retranchements. Inspiré de la transe et du vaudou, ce solo, qui nécessite une préparation physique de plusieurs jours, fait surgir la femme bouche, un personnage qui ne peut se taire, habité de tout ce qu'il a vécu et qui danse pour n'être plus qu'un corps, toujours conscient mais racontant ce qui ne peut se dire. Au lendemain de la représentation d'Errance, nous avons rencontré Kathleen Noël, chorégraphe et danseuse de ce spectacle. Avec elle, nous avons eu un entretien que nous vous donnons à entendre.
Donc, nous allons commencer cet entretien avec Kathleen Noël. Donc, qui nous a présenté son spectacle hier, Errance, qui a bouleversé beaucoup de monde. Donc, nous avons lu en fait que c'était un spectacle qui vous demandait une préparation de longues heures. Est-ce que ça vous est possible de nous dire exactement en quoi consiste cette préparation ?
Comme la pièce Errance parle de quelque chose, on va dire, assez particulier qui demande un engagement du corps et du mental assez particulier aussi pour pouvoir dire ces choses-là. Donc, rien que d'évoquer représentation de errance, déjà ça me bouleverse. Hein. Bon, je suis, je ne sais pas si c'est naturel ou pas, mais habituellement, quand je dois danser normalement, ça me bouleverse déjà. Alors que je danse depuis très très longtemps. Hein. Mais toujours et de plus en plus, ça provoque en moi des grandes inquiétudes et de grands questionnements au moment même où je dois monter sur le plateau. Et on retrouve ça aussi dans quand je dois faire une pièce. Que je passe des heures et des heures pendant des mois à préparer, à construire. Et au moment de la matérialisation de la chose, il y a une sorte de peur, de retenue, de retarder toujours le moment où ça va se passer, où ça doit se passer. Donc je le ressens très violemment dans Errance parce qu'il y a un côté assez mystérieux et mythique dans cette pièce. Dans mon rapport avec cette pièce. Est-ce que quelque part, c'est parce que je dévoile ou je donne à voir ou je ne sais pas, je ne sais pas vraiment. On dit toujours, quand on présente un solo, un travail seul, il y a toujours une part de soi-même vraiment impliquée dedans. Est-ce par rapport à ça, toujours est-il que, rien que d'évoquer le mot « errance », ça m'emmène ailleurs. Ça m'amène dans un état second, ça me questionne, ça me bouleverse, et des fois même sans que je m'en rende compte. Et ce n'est que plus tard, un peu plus loin, que je me dis, ah oui, je dois jouer Hérance. Donc, c'est quelque chose que j'ai accepté comme ça, et qui est comme ça, au fait. J'ai pas à accepter, ou j'ai pas à choisir, c'est comme ça. Et le travail que je fais, au contraire, c'est le contraire, c'est que j'essaye d'avoir un détachement et de me dire c'est une performance comme les autres, que je joue déjà depuis 2 ans, 2 ans et demi, et qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur puisque je sais qu'est-ce que ça provoque. Mais toujours est-il que, avant même que j'arrive dans l'espace, dans cette représentation, je suis assez bouleversée moi-même, tourmentée moi-même. Donc du coup, j'ai compris, puisque... Et ce que j'ai compris surtout, c'est que c'est pas quelque chose que je peux arriver et donner comme ça sans cette préparation-là qui est nécessaire, même à l'interprétation de la pièce. Donc, je le vis comme quelque chose qui s'impose à moi tout naturellement et que je saisis l'occasion et j'y vais là-dedans. Donc, à partir de là, j'ai fini par me rendre compte qu'il faut laisser du temps à ce moment-là aussi avant de donner à voir cette chose-là. Donc c'est pour ça que je demande de plus en plus par rapport à cette pièce, je demande de plus en plus 2 ou 3 jours dans l'espace, je demande un espace particulier pour la pièce toute seule. Et s'il y a quelqu'un qui doit passer, je demande à ce que cette personne puisse passer après, déjà par la charge qui est portée pour cette pièce. Il y a besoin que le public après se décharge de ce qu'il a reçu. Donc c'est toujours bien de montrer quelque chose d'autre, peu importe ce que c'est, mais de montrer un autre spectacle après qui n'est pas du tout dans le même registre. Et des fois, assez curieusement, on se retrouve dans le même registre émotionnel entre 2 pièces ou 2 personnes qui ne se connaissaient pas, qui ne s'étaient jamais vues avant. Bon, ça c'est des rares occasions. Mais ça m'a travaillé de façon telle que je me suis dit, bon, ce moment-là qui arrive avant la pièce, peut-être qu'il faut la laisser sortir. D'où la nécessité d'avoir un petit moment à part avant de l'avoir avec le public, d'avoir ce moment avec la pièce d'abord, l'histoire de la pièce d'abord, avec ses différents personnages d'abord, avant d'être en mesure de pouvoir les donner à voir. J'ai fait l'expérience aussi où je suis arrivée à la sortie de l'avion, je rentre en répétition, je rentre en montage et ça le fait pas. Même si ça a toujours le même effet sur le public, sur l'audience, pour moi ça le fait pas. Et il y a un truc qui est très important pour moi, si je n'arrive pas à être en connexion avec ce qui doit se passer, c'est faux. Même si le public le reçoit, il y a toujours le même effet, hein. Préparé ou pas préparé, arrangé ou pas arrangé, il y a toujours quelque chose qui fait que dans la pièce, c'est quelque chose qui me dépasse d'ailleurs. Je m'en suis rendu compte après l'avoir fait, c'était pas du tout un but recherché ni un objectif en soi, c'est qu'il y a quelque chose qui me dépasse, qui est propre à l'histoire même de cette pièce, qui peut-être n'a absolument rien à voir avec moi-même, et qui est que cet effet que ça fait sur le public, toujours. Et donc c'est comme ça, de la même façon qu'il faut d'abord préparer le terrain, c'est-à-dire mon corps, qui est le terrain de ces personnages, qui fait exister ces personnages, il faut le préparer d'abord. Et c'est ce qui se passe dans cette demande. C'est pas des caprices, c'est pas pour faire genre, c'est nécessaire.
Dans ce que vous dites, j'entends un peu comme s'il y avait une peur de soi-même, oui. En fait, et aussi toute une difficulté à apprivoiser le corps qui se met en place,
oui.
De avoir envie de l'apprivoiser pour à la fois se rassurer, mais d'être à la fois dans la nécessité de le laisser exister.
C'est exactement ça. Il y a cette peur toujours qui m'accompagne, toujours, tout le temps même. C'est pas uniquement dans cette pièce, elle est toujours présente. Et avant, j'en étais pas consciente. Et ça se matérialise dans mon travail aussi. Et d'autant plus avec cette pièce, c'est encore plus violent. C'est vrai qu'il y a, Il y a cette peur et cette peur s'explique pour moi par effectivement cette préparation du terrain, du corps, à pouvoir après le laisser libre, qu'il soit. C'est pas toujours évident, c'est pas tous les soirs que ça se passe. Hier soir, ça s'est pas passé vraiment pour moi. C'est pas des choses à dire, mais avec cette pièce, je peux me permettre de dire ça parce que ça relève d'un autre ordre qui n'est pas uniquement danser, quoi. Il y a des fois même, je danse pas et ça pose la question, qu'est-ce que c'est danser? Est-ce que danser, c'est toujours être en mouvement? Est-ce que chorégraphier, est-ce que écrire une pièce, c'est toujours être dans la succession de mouvements, du mouvement juste qui va avec, qui ne va pas avec, ou qu'est-ce qu'on met là? Il faut un saut, il faut aller plus vite et tout ça. Non, parce qu'il y a des fois où il se passe pas grand-chose physiquement et un autre physique, on va dire. Et oui, il a besoin de cette préparation. Il a peut-être besoin aussi de cette peur pour pouvoir être dans une fébrilité. Et puisqu'il y a fébrilité, on ne possède pas tout. Donc du coup, il y a des choses qui nous échappent et qui sont données à voir malgré soi, quoi. Donc c'est là que ça m'intéresse. C'est physique, c'est épuisant, mais c'est un questionnement permanent. Je me souviens que le scénographe qui a travaillé sur la pièce la première fois, qui a un rapport très furtif avec la pièce. La première fois à Bamako, qui est un malgache, il est plasticien, art visuel. Et il est venu à Bamako pour 2 jours pour la pièce. Et il est parti en plein milieu de la pièce parce qu'il devait reprendre l'avion. Et il a eu une sensation bizarre. La deuxième fois qu'il s'est retrouvé dans la pièce, ça a marché. Et la troisième fois, il m'a dit que ça l'intéresse pas, cette histoire de toujours revoir les choses, de toujours remettre les choses en cause, de toujours reprendre, de toujours repartir au départ. Et que lui, il n'a pas l'habitude de travailler comme ça, et que c'est pas très intéressant pour lui. Et on a eu une conversation très très violente dans ce genre de questionnement où moi je lui disais, écoute, donc ça veut dire que j'ai fait le mauvais choix, on peut arrêter là si ça t'intéresse pas, mais l'histoire même de la pièce et ce genre de questionnement perpétuel à chaque fois qu'on se retrouve face à cette pièce, à cette histoire. Et à partir de cette conversation qui a été très très dure, qui pouvait même casser notre relation amicale et artistique, ça a resserré les choses et à chaque fois c'est un plaisir pour lui. Des fois ça tient à un mot, ça tient à un geste et les choses bougent. Et il y a une chose très curieuse qu'il m'a dit qui était que ça remet aussi son travail dans un autre positionnement. Et il était assez curieux de savoir ce que je pensais de sa dernière installation et si je sentais des choses qui étaient liées par rapport à ce qui se passait pour moi dans l'errance. Et donc, je pense que le fait aussi que le public se ressorte bouleversé ou se sente dénudé ou interpellé ou dedans ou accompagnant et pour moi, au départ, c'était assez étonnant, mais plus moi je rentre là-dedans pour m'en imprégner, pour pouvoir après le donner, je me dis, c'est peut-être ça pour cette histoire-là, à ce moment-là.
Je voudrais rebondir sur deux choses, continuer un peu sur la thématique de la peur, ce mot-là, mais le déplacer, et sur la question aussi du regard, et notamment de quand vous dites qu'est-ce que la danse, est-ce que c'est toujours dans le geste que se fait la danse? Du coup, finalement, là, tout de suite, j'aurais envie de dire que dans cette pièce, finalement, il n'y a pas de geste, il n'y a pas de mouvement, mais il y a la marque dans le corps de ce que là, le personnage voit. Et pour nous, c'est très étrange parce que tout au long de la pièce, il y a un long passage où le personnage montre quelque chose. Et nous, c'est le personnage qu'on regarde. Et comme si l'horreur de ce que le personnage voit est marquée dans le corps.
À partir de là, c'est plus du geste, ce n'est plus le personnage qui décrit par les gestes ce qu'il voit, mais c'est ce qu'il voit qui se marque dans le corps. Et c'est la seule condition pour qu'on puisse voir l'horreur. De sorte que l'horreur, on ne peut pas la voir, on ne peut la voir que dans le corps de l'autre, de celui qui regarde. Nous sommes toujours le spectateur du spectateur, quelque part.
Oui. Oui. Oui, c'était le parti pris de... C'était aussi, c'est mon questionnement aujourd'hui et par rapport à l'Afrique aussi. Et qu'est-ce que c'est cette danse aujourd'hui et qu'est-ce que c'est la danse? Et moi, ce que je vois, ce que je vis, c'est qu'on danse toujours, on danse tout le temps. Tous les jours, comme on respire, comme on mange, comme toutes ces choses-là qui sont nécessaires à l'existence même. Et pour moi, tout ça, c'est de la danse. Et le corps dans tout ça. Hein? Et je pense pas que avec une, peut-être qu'il y a une certaine énergie physique qui peut, et technique qui pourrait aussi emmener là. Hein? Et à ce moment-là, le corps, il est exposé d'une autre façon. Et tandis que là, le corps, il est plutôt exposé dans son vécu. Dans ce qu'il a façonné. Et c'est là que ça devient un petit peu très, très épuisant pour moi, c'est de toujours aller chercher ce corps-là. Pas toujours dans le drame, hein, mais d'aller... Là, c'est quand même assez violent, c'est quand même... Il y a beaucoup d'horreur aussi là-dedans. Mais il y en a beaucoup d'horreurs. Et comment le corps, il est marqué de tout ça. Et qu'est-ce qu'il ressent, et comment il en ressort. C'est compliqué quand même. C'est pas clair, hein. Mais c'est à partir de ce moment-là, un corps tranquille, comment il va pouvoir révéler certaines choses intimes qui ne sont pas palpables, que c'est parce qu'il y a le spectateur qui visualise, qui reçoit et qui matérialise, qui redonne après plus tard, qui fait que. La chose devient importante à ce moment-là où c'est donné.
En fait, votre spectacle me rappelle aussi un documentaire de Jean Rouch, Maître et Fou, où finalement on prend conscience de la violence du colonialisme en voyant les personnages rentrer en transe. Et on se rend compte de la violence du colonialisme à ce moment-là. Parce que les gens, en fait, avec la force qu'ils ont pour se défendre, en fait, avec les moyens, les structures qu'ils élaborent pour montrer les choses et pouvoir les échanger entre eux. Parce qu'elles ne peuvent pas être dites, parce qu'ils sont toujours sous l'emprise des Anglais, je crois, à ce moment-là. Donc, dans la vie normale, on ne peut pas dire ça, sinon c'est insoutenable. Donc... C'est une cérémonie à part, dans un lieu à part, où les choses se montrent, créer différents temps.
Et dans cette cérémonie, en fait, les personnages rejouent la hiérarchie du colonialisme. C'est-à-dire qu'ils se mettent à incarner le gouverneur, la locomotive qui fait les allers-retours entre le gouverneur et le peuple, et ainsi de suite. Chacun se met à incarner un des rôles et un des postes de l'Empire.
Et il peut être les deux.
Il peut être les deux, oui.
Être errance, où à un moment donné, on a l'impression qu'on passe de la victime au bourreau qui voit lui aussi son horreur, l'horreur qu'il a commise.
C'est super de voir ça. C'est l'intention aussi, sans vouloir mettre des doigts et dire, c'est pas du tout le but. Mais il y a quelque chose qui est très important. Malgré tout ce qu'on peut faire, malgré toutes les transformations ou les bouleversements qu'on peut subir, il y a quelque chose qui reste inné. C'est ce qui va rester de tout ça. Et ça, personne ne peut l'enlever. Donc, on le vit avec les Haïtiens, les Brésiliens, les Cubains, les Caraïbéens qui sont partis, qui ont été déportés, qui ont subi tout ce qu'on sait et qui même dans l'histoire on parlait de l'arbre de non-retour où il fallait faire le tour hein, pour pouvoir oublier qui on est, d'où on vient. Il y a quelque chose qui reste quand même et malgré tout ce qu'on peut faire, ça va rester Et un jour, il va témoigner, il va dire. Et je pense que Errance, c'est cette histoire-là. C'est tout ce vécu, toutes ces transformations, tous ces bouleversements. Et finalement, on reste ce qui est inné, ce qui est culturel, hein, ce qui fait nous-mêmes et notre propre identité va rester quand même. Et quand on en a besoin, on va aller gratter, gratouiller, chercher et il va sortir. Et là, il y a que le corps. Et le corps est le, qu'est-ce qui reste pour résister? Après tout, il y a que le corps qui peut faire front, il y a que le corps qui peut témoigner, il y a que le corps qui résiste. On va faire des lavages de cerveau, on va faire des rituels, on va faire des baptêmes, on va faire toutes sortes de choses. Mais le corps, il a sa mémoire, et un jour, il va vouloir dire des choses.
Pour continuer dans ce qu'on dit, j'ai vu il y a pas très longtemps un court-métrage suédois où on a un personnage qui assiste au gazage de personnes. Et la caméra se fixe sur le corps de celui qui regarde. Et ce qu'on voit, c'est que la personne qui regarde cette scène, qui est assez horrible, eh bien son corps reste froid. Aucune expression sur le corps. Et à ce moment-là, on se dit que juste, c'est au moment où le corps, quand le corps n'exprime plus rien face à l'horreur, c'est là où se joue la négation. Et c'est là où les choses se taisent.
Là où les choses peuvent d'autant plus se faire de façon violente.
Une forme de fascisme total. Et qu'effectivement, par rapport à ce que vous dites, le lieu de résistance, c'est le corps. C'est-à-dire le corps nous déborde. Ce qui nous fait penser au cri d'Edouard Munch, où on a le corps, on va vous montrer l'image, où on a le corps qui est débordé par l'horreur. C'est-à-dire, et dans cette image terrifiante du personnage qui reste froid, que son corps ne bouge absolument pas face à une horreur, il a quelque chose d'effrayant, quoi. Qu'effectivement, la mémoire, là, on voit bien qu'elle se joue dans le corps, puisque c'est ce qui nous déborde, quoi, quelque part aussi.
C'est ce qui nous échappe aussi, au fait. Il arrive à un moment, ça nous échappe. Et le corps, il a beau être brimé, enfermé ou emprisonné, il arrive à un moment, il va s'échapper malgré soi.
Je propose de regarder cette image qui nous paraissait intéressante de vous montrer. Vous la voyez bien.
Oui.
Cette image qui est le cri d'Edouard Munch, elle nous paraissait intéressante de vous le montrer parce que c'est vrai que sur ce festival transchorégraphique, il y a eu beaucoup de cris. Mm-hmm. Le vôtre nous a particulièrement. Il était particulièrement singulier puisque, en fait, ce n'est pas vous qui criez. Enfin, en tout cas, ce n'est pas le personnage qui crie. On entend un cri et le personnage ouvre la bouche comme si c'était le cri. Et il y a là quelque chose qui se joue et on avait associé à la fois Leder Munch avec cette image également de Bacon, du cri où il n'y a plus que le cri.
Oui. Mais la première photo que j'ai vue, celle-là je viens de la voir, donc je ne l'ai pas vue vraiment parce que je suis restée sur l'autre photo, la première. Alors, oui. Et cette photo... C'est comme ce qui se traduit dans ma tête et dans mon corps quand il y a ces moments-là. Quand c'est exactement ce que je ressens quand c'est un cri plein, on va dire. C'est un cri qui est, il est matériel. Et on peut même le toucher, le prendre et s'en imprégner encore. Donc ça veut dire c'est un cri où on est dans le cri même, dedans le cri même. Et pour moi cette image elle peut pas traduire, elle peut pas être plus juste que ce qu'elle est par rapport à Errance et à certains moments de Errance. Et à travers tout ça, il y a des fois des petits bouts de chemin, d'ouverture, hein, qui après se referment et tout ça se remélange encore pour emplir l'espace et les êtres qui sont dans l'espace. Oui, c'est pas un cri perçant qui sort comme ça.
C'est un cri sourd un peu.
Oui, c'est un cri qui s'ouvre. Comme un trou béant qui ne peut pas s'empêcher de s'élargir et de se creuser.
Oui, c'est ça.
Mais du coup, en fait, oui, pour en revenir à la femme bouche, donc ça rejoint un peu toute une pensée du début du 20e siècle où on dit « je suis un trou, l'homme est un trou ».
Oui.
Et là, c'est une femme trou, c'est-à-dire que sur certains passages de Errance, des fois, moi aussi, je voudrais me boucher. C'est-à-dire que mon corps, je suis dans une civilisation où mon corps de femme est problématique, trop ouvert. Et j'ai été particulièrement intéressée quand vous avez parlé ce matin de la question de la transmission et que vous voulez transmettre ça à un homme. Parce qu'il m'a semblé que finalement, le corps de la femme dans nos civilisations est toujours vécu comme un événement. Il a des menstrues, il enfante, il est pénétré. Donc c'est quelque chose qui est en lien avec un mouvement perpétuel, une émotion. Alors que le corps de l'homme semble toujours dans une rectitude, jamais traversé par quelque chose. C'est le corps du puissant aussi.
Oui, et justement c'est dans ce sens-là que je disais que ça m'intéresserait de voir comment lui, il pourrait se laisser pénétrer au lieu de pénétrer les autres. Et dans pénétration, je ne vois pas toujours cette connotation sexuelle, ça va au-delà de la sexualité. C'est beaucoup plus physique, matériel et spirituel que ça. C'est dans ce sens que je me vois le transmettre, puisque moi je vis l'expérience en tant que femme de donner à voir cette chose-là. Maintenant, pour moi, c'est bien sûr que c'est intéressant de voir une autre femme, d'une autre culture, un autre univers, d'un autre parcours, pouvoir aussi prendre cette pièce. Mais l'intérêt, là où c'était intéressant, où c'est intéressant pour moi, c'est justement ce questionnement-là. Comment il va trouver en son corps, en lui-même, ses fragilités, cette absence et cette disponibilité à se laisser aussi voir, à donner à voir, à se mettre, à devenir fragile, une femme éventuellement. Oui, j'aimerais bien voir ça. J'ai commencé à l'expérimenter, mais j'ai pas eu le temps d'explorer parce que c'est un homme rebelle qui l'a interprété une fois seulement. Je pense qu'on va se retrouver plus tard pour continuer à chercher, à fouiller autour de ça. Et comme je disais aussi, c'est pas dans la succession de pas, c'est pas dans un ensemble ou une combinaison de pas, c'est plutôt dans une situation, où est-ce qu'on va se mettre, où est-ce qu'on veut se mettre, ou jusqu'où on veut aller trop loin pour s'interroger, pour interroger le corps et pour interroger tout simplement la vie. Hein? Donc, j'aimerais beaucoup. Et elle est d'autant plus, ce qui se passe, et ce cri est d'autant plus un trou que quand elle écarte les jambes, c'est pour témoigner de ce trou et être sûr que tout le monde se rend compte que c'est un trou. Un trou, mais il y a quand même des choses à l'intérieur. C'est peut-être pas un trou vide. Et c'était cette invitation qu'il y avait à pénétrer ce trou, que chacun trouve... comme on rentre dans une grotte et chacun découvre un petit endroit assez spécial ou bouleversant ou inquiétant ou même tout simplement confortable. Il y a eu des gens qui sont rentrés. Il y a des gens qui sont rentrés dans une horreur et d'autres qui sont rentrés dans un bien-être. Et la chose, c'est de recevoir aussi. C'est-à-dire, dans cette invitation, moi aussi, je m'invite, enfin en tant qu'interprète, je m'invite aussi à faire le voyage. Et quand je reçois, des fois, je reçois le public. une personne. Je peux le recevoir soit de face, soit d'à côté, soit du dos, soit de derrière. Et des fois, je reçois. Et je le reçois vraiment dedans, quoi, profondément. Dans les entrailles, on va dire. Et ça provoque des choses en moi. Et ça impulse ce qui va se passer plus tard. Tout en étant conscient qu'il faut danser aussi quand même.
L'histoire de la danse en Occident, en tout cas en Europe, les danses populaires en Europe ont été récupérées par le pouvoir. Elles ont été écrites et figées. Et du coup, elles ont subi une transformation qui fait que le peuple a arrêté de danser à un moment donné. Vous venez de Bamako, je pense au Mali, et je me dis que, par exemple, si on prend l'exemple des Dogons, où là, l'expérience de la danse, j'imagine, est différente, puisque j'ai le sentiment que c'est le tourisme qui a modifié le rapport à la danse populaire.
Mais comme à l'art en Afrique.
Voilà, et que c'est joué une autre récupération de la danse, qui n'est pas cette fois-ci par le pouvoir, par l'académie, mais par le tourisme, et du coup, par l'Occident aussi.
On parlait de colonisation tout à l'heure. Et la décolonisation aussi, quelque part, a entraîné une certaine visualité de cette danse traditionnelle, de cette danse africaine qu'on a voulu qualifier plus tard de folklorique, de traditionnelle, et ainsi de suite. Hein. Et elle peut pas être figée en Afrique, la danse. Elle est trop forte. Parce que, comme je suis convaincue, on danse tout le temps. Même ceux qui ne savent pas danser font une danse. Et tout le monde. Et il n'y a qu'à voir aussi, dès qu'il y a un petit contentement, vieux ou pas vieux, jeune ou moins jeune, on se met à bouger, on se met à danser. Aujourd'hui, je pense que par rapport à l'Occident, c'est nécessaire d'être au courant, de voir, de vivre ce qui se passe en Occident avec la danse pour pouvoir s'en servir, pour empêcher ou préparer ou faire en sorte à ce que nous ne tombions pas là-dedans aussi. Mais je pense que c'est impossible. Ça ne peut pas se passer comme ça parce que le continent, il bouge, il danse. Donc, peut-être pas là où on croit, peut-être pas la danse qu'on imagine, peut-être pas cette danse qui a été figée dès le départ après la décolonisation qu'on a bien voulu montrer à l'Occident, et cette image africaine. Et que nous-mêmes, par la suite, nous y avons cru aussi.
Oui, c'est un peu ma question.
C'est un peu ça aussi, donc... Enfin, je parle en mon expérience personnelle et à moi-même aussi parce que je me questionne par rapport à tout ça. Donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle forme de danse qu'on appelle danse de créativité contemporaine, danse de recherche contemporaine, je pense que l'Afrique a tout à gagner puisque malgré la peur du formatage, aussi, là, on peut parler de formatage, un autre formatage, c'est-à-dire que nous autres artistes chorégraphiques ou danseurs, nous allons prendre des choses que sans peut-être parfois comprendre, que nous mésintégrons dans notre travail, qui des fois sont très très maladroits et très naïfs, mais je pense que c'est un cheminement naturel et que plus tard, à force, on finira par s'en rendre compte et on finira par avoir les moyens pour éviter ce genre de piège. Et je pense que c'est un devoir tout simplement artistique et personnel. Mais je veux dire, dans ce sens-là, aujourd'hui, nous la créons, notre danse. Nous la réinventons, notre danse, en puisant dans ce que nous sommes, dans ce que nous avons été, dans ce que nous voulons devenir. Et il y en a qui ont des formations diverses, des parcours différents, il y en a qui vont chercher dans leur tradition, il y en a qui vont chercher chez les fous, il y en a qui vont chercher dans la ville même. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une chose extraordinaire dont il ne faudrait pas rater, Justement, parce que, et c'est la danse qui l'amène, et ça se passe avec la danse. Ça s'est pas passé pareil avec la musique, avec la world music. Ça s'est pas passé de la même façon. Tandis que avec la danse, comme elle est quand même très physique et très engagée physiquement, il y a quelque chose qui est très marquant, qui sera très, très marquant pour l'histoire de la danse en Afrique et même peut-être de la danse tout court. Comment nous allons sortir de cette histoire en étant une culture, en étant d'une culture de danse, là, qui est un moyen de communication très, très fort pour toutes les émotions, pour toutes les circonstances. Et je suis très curieuse de cette évolution-là, de comment cette chose-là va se développer et va trouver sa place dans la société africaine.
Le spectacle Errance, c'est un spectacle qui a été créé en France ou un spectacle qui a été créé à Bamako?
À Bamako
La
même.
première a eu lieu à Bamako.
La première a eu lieu à Bamako, la deuxième a eu lieu à Bamako, et après, depuis, je ne l'ai pas joué encore à Bamako.
La réception du public est la même?
Oui, la même. À des degrés plus ou moins différents, mais la même. Oui. Oui. Et avec des fois plus choquées, parce qu'il y avait un étudiant en danse au Mali, une étudiante qui m'a dit pourquoi t'as écarté les jambes. Je fais alors, ça t'a fait quoi? Elle m'a dit, ça m'a fait mal. Je lui ai demandé, où est-ce que ça t'a fait mal? Et elle m'a dit, justement, ça m'a fait mal là où tu as écarté la jambe. Je fais, voilà, c'est tout, quoi. J'ai rien d'autre à te dire. C'est justement, c'est ça. Toi, ça te touche là. D'autres, ça va les toucher ailleurs. Elle s'est sentie aussi un trou, justement. Après, on a parlé plus longtemps. Il y a d'autres, au Nigeria, il y a une femme congolaise hein, qui m'a dit, si tu joues ça dans le nord du Nigeria, on va te couper en petits morceaux. Il y a des gens qui, au Cameroun, on me dit, oui, depuis que je t'ai vu dans cette pièce, j'ai l'impression de voir une sorcière hein, et que je te regarde toujours de façon bizarre et j'ai peur de t'approcher.
C'est quelque chose qui est propre à l'image de la femme
Je
aussi,
pense,
la
et même des
sorcière.
hommes sont bouleversés par cette histoire. Il y a quelqu'un qui connaît bien mon travail, qui accompagne mon travail depuis un certain temps, et qui me dit qu'il a eu mal au ventre. Qu'il a été. Comment je peux faire une chose pareille? Et 3 mois plus tard, est revenu voir, pas 3 mois, 1 an plus tard, est revenu voir la pièce. 10 mois plus tard, est revenu voir la pièce à Marseille. Et qui me fait, waouh, ça m'a fait du bien de revenir voir. Et du coup, il a reçu la pièce d'une autre façon. Mais qu'il a toujours bouleversé différemment, avec beaucoup plus de recul, peut-être. Mais les hommes aussi sont touchés par cette pièce.
On avait ressenti vraiment votre pièce aussi comme cette période de torture, en fait, qui fait que. Comment dire? En fait, l'expérience de la torture, quand le corps est attaqué, beaucoup de personnes, après ces traumatismes-là, avaient l'impression qu'il n'y avait plus de différence entre le monde et elles, que le contenant s'était disloqué. Et donc, leur mental aussi ne pouvait plus se protéger, en fait. Il y avait une sensation de confusion entre eux et le monde.
C'est un chaos, oui. Mais pour elle aussi, sur le plateau, c'est un chaos. Et à l'intérieur de ça, elle doit s'en sortir. Elle doit s'accrocher, quoi. Mais à chaque fois, il y a un truc qui l'empêche d'accrocher. Et elle matérialise même cette vision-là, qu'elle-même peut voir. Ce truc chaotique où les couleurs et les formes et les sens se mélangent, s'entrechoquent. Et là-dedans, elle doit trouver où s'appuyer. Des fois, ça peut être des moments très, très agréables aussi, qui tout de suite peuvent être dérangés par d'autres moments bouleversants.
Et à la fois, cette lumière si intense, blanche, que l'ombre n'est plus possible et que aussi les formes ne sont plus possibles. Et il semble ne plus rien avoir ou se raccrocher et que l'espace paraît infini.
Ouh, le mot infini, l'espace est infini. Il est infini. Il commence nulle part, il s'arrête nulle part. Sauf à ce moment-là, il y a des choses qui se passent parce que le parcours a fait que il y a un petit espace pour ça. Et là, on vit ces choses-là, à ce moment-là, parce que ça s'est passé là, à ce moment-là. Et plus loin, dans cet infini...
Ou sans horizon, en tout
ou
cas.
Ou sans horizon, sans horizon.
Sans horizon.
Sans horizon. Et ça, ça erre. Ça erre. Et de temps en temps, c'est accroché. Je suis assez contente, pas toujours contente de ce qui, de la performance en elle-même et, ou de mon interprétation, parce que des fois je trouve que je suis à côté, je trouve que j'ai pas été assez ou suffisamment. Mais ce que je trouve assez fort dans cette pièce, et c'est là encore que ça me dépasse, hein, c'est de voir que à chaque fois, quand j'ai à parler de cette chose-là, j'arrive toujours, c'est comme si c'était une exploration continue. Aujourd'hui, je suis là. Demain, je vais rencontrer d'autres personnes qui s'y intéressent. Et c'est comme s'ils étaient là et qu'on était en train de continuer ce petit dialogue-là. Et c'est ça qui m'échappe dans cette pièce, que je trouve très, très fort dans la pièce. Et c'était pas du tout, genre, méthodiquement que, bon, là, il faut que ça soit comme ça. Non, c'est un truc de l'ordre de l'irréel, de l'inaccessible, que c'est la pièce elle-même qui amène ça. Et ça, je l'ai avec le public et je l'ai avec les principes des personnes, des journalistes, des gens curieux qui m'interrogent sur cette histoire. Et c'est ce que je ressens dans ce que nous sommes en train de dire. Et pour moi encore, le fait d'en parler maintenant, c'est pour moi ça continue. C'est la performance qui continue, c'est l'histoire qui continue. C'est comme si c'est normal qu'on s'asseye là et qu'on en parle et qu'après demain je continue ailleurs. Et je garderai les traces de cette conversation-là pour encore nourrir plus tard. Et c'est même pas parce que j'aurais voulu garder, c'est que ça s'impose à moi tout seul. C'est un truc toujours vécu, constamment revécu. Même quand je l'arrête. Hein. Et je sais que je dois y aller à un moment donné et puis le truc se déclenche.
Vous avez eu envie de l'arrêter à un moment donné quand même?
Non, c'est pas que j'arrête la pièce. Je me dis que je ne veux pas la faire en tournée. Je ne veux pas la jouer pendant une fois ici, une fois là-bas. Je veux la jouer dans un espace où j'ai le temps de construire avec. Et cette pièce m'a emmenée à me dire que je ne veux plus danser pour faire des performances en tournée. Et que, bon, j'arrive à un moment où je m'interroge beaucoup. Je ne veux plus danser, courir après la danse. Et c'est cette pièce qui m'a emmenée à penser comme ça aujourd'hui. Et avant de détruire cette pièce-là, je ne pouvais pas savoir ça. Et je pense que c'est une expérience plutôt personnelle. C'est une expérience que je peux peut-être partager avec... Mais ce n'est pas une expérience de compagnie. C'est une expérience de rencontre de personnes, d'individus, de vécu avec d'autres personnes. Ou avec d'autres espaces. Une exploration perpétuelle, toujours en questionnement. Au fait, quelque part, je refuse que les choses soient bien définies dans le travail, dans mon travail personnel. Pas avec les autres, dans mon travail personnel. Et tout ce travail en Afrique et avec les autres, c'est pour aussi amener mon travail personnel. Donc, il y a un moment donné, j'ai de plus en plus j'ai de plus en plus envie de côtoyer ce déséquilibre, hein, ce risque de ce questionnement avec soi-même et avec les autres. Après ça, c'est plus soi-même, c'est livré aux autres et que c'est les autres qui viennent amener leur propre interrogation là-dedans. Donc du coup, j'ai envie d'explorer encore plus ça. Alors, ça dépasse le cadre de la danse performante. C'est la danse qui me donne l'opportunité de pouvoir aller explorer ça. Mais la danse n'arrête pas ça dans une forme.
A. Bout.